Alors en 1896, dans la déchéance la plus totale, avec pour seuls derniers amis le peintre Casals et l'écrivain Gustave Le Rouge, Verlaine eut droit à des funérailles de roi qui rassemblèrent, de l'église Saint-Étienne-du-Mont jusqu'au cimetière des Batignolles, des milliers de personnes, peut-être bien 10 000. Sa disparition provoqua une immense vague de réactions et d'hommages, se traduisant par des tonnes d'articles de presse. En 1996, empruntant le titre du sonnet de Mallarmé écrit à la mort de Verlaine, Jacques Drillon publiait aux éditions du Promeneur « Tombeau de Verlaine », un ouvrage qui rassemblait un choix de textes, extraits de correspondances ou de mémoires, et des journaux et revues qui, un siècle plus tôt, avaient rendu compte de la mort de Verlaine. Des textes signés de gens pour la plupart aujourd'hui oubliés, mais aussi de Zola, Barrès, Proust, Blois, Valéry et de beaucoup d'autres. Lors de sa parution, Jacques Drillon était invité à présenter ce livre dans « Du jour au lendemain » où il répondait aux questions d'Alain Weinstein. C'était le 17 février 1996 sur France Culture.
Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. On m'aura dit adieu si on s'est tu. Du jour au lendemain avec Jacques Drillon, pour « Tombeau de Verlaine », un choix de texte qu'il a réuni aux éditions Le Promeneur. Vous avez publié pas mal de livres avant celui-ci, Jacques Drillon, des livres qui n'ont rien à voir avec ce type d'exercice, romans, journal, inventaire, études, livres sur la ponctuation aussi, parce que si vous êtes journaliste de profession, vous êtes grammairien de formation. C'est la grammaire qui vous a rapproché de Verlaine.
Sans doute quelque part, comme ils disent aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas cette grammaire-là. Je me suis occupé de ponctuation parce que c'était quelque chose qui n'était pas très très intéressant et j'ai voulu en faire le tour et je pense que je l'ai fait.
Point sur la ponctuation.
Voilà, oui. Mais comme je n'ai pas des conceptions en ponctuation du tout musicales. Des conceptions musicales en ponctuation plutôt, et que Verlaine est avant tout un musicien, les deux choses ont guère de rapport. Moi, je suis, en matière de ponctuation et de grammaire, je suis plutôt légaliste, rigoriste. Verlaine et ça ne marche pas très bien ensemble.
En ce qui vous concerne, alors, on peut dire que c'est la musique avant toute chose.
C'est en tout cas l'aspect de Verlaine qui me fascine certainement le d'abord, cette espèce d'instinct incroyable qu'il avait de... Parce que d'un côté, c'était un technicien prodigieux, un immense technicien aussi grand que Mallarmé ou que Valéry, une sorte de virtuose incroyable de la versification, enfin. Et puis, une sorte d'improvisateur, d'ingénu. En matière d'écriture. Et c'est son ingénuité, son improvisation, c'est celle des mélodistes. C'est celle de ceux qui ont ce talent-là, qui leur est donné, on ne sait trop comment, par qui, en partage. et qui consiste à savoir faire des mélodies comme ça vous vient. Et là, ça c'est une chose qui n'est pas, c'est pas que c'est pas explicable, c'est tout à fait explicable, discutable. Simplement c'est que ça ne s'acquiert pas, enfin. Voilà, vous aurez beau travailler comme une bête. D'ailleurs, on ne sait même pas quand Verlaine a travaillé lui-même sa technique. On dirait
justement,
apparemment.
Il
ne
faut pas
que...
travailler.
Oui, mais enfin, en général, la technique, ça se travaille. Oui. Il a une technique comme l'aurait eu quelqu'un qui a véritablement travaillé. Et on ne joue pas du piano comme Xifra si on n'a pas fait des gammes toute son enfance. Et alors lui, quand a-t-il fait des gammes? Puisqu'il a écrit extrêmement tôt. Et que tout de suite, tout a été là. Et même très curieusement, puisque d'habitude, les gens écrivent de mieux en mieux, enfin, acquièrent le métier, acquièrent le savoir-faire, et puis arrivent à une maturité, et puis parfois, il y a une petite chute de tension vers la fin, mais pas toujours. Lui, c'est le contraire. Lui, ça part extrêmement fort, et puis ça ne cesse de se dégrader jusqu'à une sorte de nullité finale, incroyable, désespérante. Et qui est telle qu'il y a, je ne pense pas qu'il y ait un seul auteur français, enfin un seul grand auteur français pour lequel il y ait un tel divorce entre les, enfin une telle distance entre les bons textes et les mauvais. C'est quelque chose d'absolument stupéfiant chez lui. Mmh. Et alors, non seulement entre les bons textes et les mauvais, mais dans un même recueil, entre le texte numéro 26 et le texte numéro 27, et à l'intérieur même du texte numéro 26, le vers numéro 3 et le vers numéro 4. Le vers numéro 3 peut être absolument sublime, et le 4 complètement dégueulasse, mal fichu, et envoyé comme ça, sur le papier, avec une espèce d'incurie, d'impéritie.
C'est Verlaine que vous avez devant vous, là, dans la Pléiade?
Oui.
Vous ne quittez jamais?
Si, je... Non, je m'étais dit qu'on devait certainement en parler de Verlaine, alors, bon, mon Dieu.
Bah écoutez, on va en parler en effet dans un instant. On va parler de votre livre, Tombeau de Verlaine, Jacques Drillon. Mais avant de revenir sur cette musica, je voudrais qu'on dise un mot de cette revue que vous dirigez, Symphonica.
Symphonia.
Symphonia, oui, pardon. Une nouvelle revue, donc une revue musicale. Et j'ai envie de vous demander si c'est une revue de plus ou une autre revue?
Ni une revue de plus, ni une autre revue, c'est la première revue dans l'histoire. Non, non, j'exagère. Il y a eu dans le temps une revue qui s'appelait Musique en jeu, qui n'était pas si loin de celle-ci. Oui, Symphonia, c'est une revue dans la mesure où elle est totalement déconnectée d'actualité, où elle ne s'occupe pas des concerts à venir, elle ne s'occupe pas...
Pas de programme.
Pas de programme, pas de critique, ni de disques, ni de livres, ni de concerts, ni de spectacles, ni rien du tout. C'est une revue qui ne publie que des textes intéressants, dont le but est de publier des textes intéressants. Et de toutes époques, et de tout genre, avec cette exigence qui est de confier l'article à un spécialiste et non pas à ces gens qui sont un petit peu entre deux chaises dans la presse musicale, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu écrivains, un petit peu journalistes, un petit peu musicologues, mais jamais vraiment l'un des trois. Là, Léon, par exemple, on va publier une enquête de Pierre-Michel Minguer, qui est sans doute le meilleur sociologue français pour ce qui concerne les choses de la musique. De même qu'on publie des articles véritablement d'écrivains, qui sont, j'ai commandé un article à Jean Roudeau, par exemple, sur l'idée de miroir. Et puis à côté de ça, de la presse, du vrai journalisme, des véritables investigations, des enquêtes, des portraits, des choses comme ça. Mais tout à fait gratuites, comme ça pour le plaisir de...
Mmh. Une revue donc ouverte, polyphonique, vous n'êtes pas un maître de chapelle.
Non, je cherche plutôt, si je pouvais faire une chapelle, ça serait bien. On serait là tous, je sais pas, 5 ou 6, comme se font les revues. On disait toujours, les revues se font au bistrot, toujours. Et moi je vais au bistrot avec personne, donc c'est bien ennuyeux. Donc je cherche des auteurs, je cherche des textes. J'ai d'ailleurs j'ai fait une sorte de petit texte, une sorte de petit édito dans Tête du numéro 2 où je faisais un appel au peuple, où je disais aux gens, écoutez, si vous êtes sociologue, si vous êtes écrivain, si vous êtes musicien, envoyez-nous. Si vous connaissez des textes intéressants qui ont été publiés en France, à l'étranger, vieux, pas vieux, récents, au moins, envoyez.
Vous allez devoir recruter une secrétaire.
Et oui. Oui, alors comme en l'occurrence pour ce genre de travail, c'est moi qui suis ma propre secrétaire. Je lis beaucoup de textes qu'on m'envoie, oui. Et il s'en trouve d'excellents, oui. Je trouve que c'est une très bonne idée de dire aux gens un petit peu, allez-y. Parce que comme je ne fais pas la différence entre les textes édités et les textes inédits, je considère que l'inédit n'est pas une n'est pas une vertu en soi. Finalement, quand on va dans une librairie acheter un livre, qu'on va acheter Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, on n'achète pas un inédit. Et c'est pas parce qu'il est édité qu'on ne l'achète pas. Enfin, je veux dire, c'est un peu paradoxal dit comme ça, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui existent qu'on ne connaît pas. Et voilà, donc je reprends volontiers hein, des textes de, je sais pas, de Colette, de Hugo Wolf, de des textes étrangers que je fais traduire.
Symphonia, une revue qu'on peut lire avec les oreilles, puisque chaque numéro s'accompagne d'un disque compact.
Oui, le projet est un projet d'origine italienne. C'est un groupe de presse italien qui possède déjà plusieurs revues en Italie, qui a voulu faire ça en France. Et donc, ils ont signé des accords avec un certain nombre de radios, de fonds comme ça, d'archives, pour publier des disques à partir de leurs enregistrements. Et donc, on n'a pas le droit de dire on offre, je crois. On vend en même temps, sous un emballage plastique absolument hideux, pas assez hideux à mon goût, mais enfin quand même passablement hideux, un CD et la revue, oui.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent. J'arrive tout couvert encore de rosée que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée. Rêve des chers instants qui la
une musique qui ne vous dépayse pas, Jacques Drillon, mais qui peut-être perturbe un peu nos auditeurs habitués au jazz. Je ne sais pas, pour varier un peu, si j'avais été vous, j'aurais choisi un musicien comme Steve Lacy, par exemple. Pourquoi vous n'avez pas eu cette idée ?
Est-ce que vous êtes pervers tout de même ? Non, j'avais pensé à demander plutôt Steve Lacy, parce que là... Enfin, j'ai découvert ça, je ne connais absolument rien du tout en jazz. Je suis complètement sourd à cette musique, mais je suis souvent émerveillé par ce que j'entends. Seulement, ça retombe aussitôt et je l'oublie aussi. Et sitôt entendu. Mais j'ai entendu ça un soir, sur votre antenne d'ailleurs, je crois. Et j'ai entendu quelque chose qui m'a semblé être non pas la réincarnation, mais une sorte d'avatar, comme ça, de la magie musicale verlainienne. C'est-à-dire d'un... C'est des choses qu'il a fait avec un auteur, qui est un chanteur aussi, plus ou moins, Brian, je sais plus très bien, Gizine, je crois, et où il a réussi absolument à faire sonner les mots, indépendamment de ce qu'ils veulent dire, exactement comme Verlaine fait. Car la grande découverte verlainienne, c'est ça, c'est d'avoir absolument disjoint le sens des choses et le son des choses. Jusqu'à lui, jusqu'à Baudelaire en partie, mais surtout jusqu'à lui, on considérait que la sonorité, la rhétorique, était faite pour porter le sens, pour le magnifier, pour l'amplifier. Tandis qu'avec Verlaine, pas du tout. Avec Verlaine, il y a deux couches tout le temps parallèles, la couche du sens et la couche du son. Et la couche du son est totalement indépendante, elle se développe... sans préjuger de ce qu'il y a là-dessous. Et un petit peu comme quand on regarde des choses, si vous regardez une page d'un petit peu loin, vous verrez qu'il y a des blancs, des rigoles qui se dessinent entre les lignes. Et c'est interdit en typographie, mais on le fait souvent tout de même. Et ces rigoles, là, bon, ben voilà, c'est ça. Le sens de Verlaine se promène dans les lignes. Et ces lignes-là, ou le son, c'est peut-être le son qui se promène plus que le sens. Le son se promène comme ça, indépendamment de ce qui est véhiculé par les lignes elles-mêmes. Et il m'a semblé que Steve Lacy, je ne comprenais pas le texte des choses qui étaient chantées, mais j'entendais les mots. Et ces mots avaient été transformés véritablement en son de saxophone. J'ai entendu un jour un concert de Max Roach auquel je m'étais rendu, je suis retourné le lendemain aussitôt. Parce qu'il était sur scène, il faisait un solo de batterie, il était sur scène et il chantait avec cette espèce de voix grave de vieux noir qu'il avait, sublime voix. Et il chantait une chanson très simple, il disait ensuite, maintenant je vais vous la jouer. Et il la jouait sur sa batterie et on entendait la chanson. Voilà, c'est ce type de transformation, de passage d'un état à un autre, comme ça, qui est complètement stupéfiant. Et alors, dans ce disque de Steve Lacy, on trouve ça, on trouve le mot qui tout d'un coup devient musique, enfin, voilà. Mmh.
Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de vous faire entendre un morceau de Steve Lacy. Vous êtes très attentif au son, Jacques Drillon. Vous aimez les lectures publiques qu'il vous arrive à l'occasion de pratiquer vous-même. C'est ce qui s'est passé le 8 janvier 1996. Ce n'est pas une date choisie au hasard. Pour le centenaire de la mort de Paul Verlaine, c'était au foyer du théâtre du Châtelet. Vous étiez là comme récitant et au piano, il y avait Jean-Louis Agnoer. Et c'est à l'occasion de cette commémoration, donc en public, que les éditions du Promeneur ont décidé de publier le choix de texte que vous avez fait pour cet événement sous le titre « Tombeau de Verlaine », donc un recueil de textes écrits à l'occasion de la mort et de l'enterrement de Paul Verlaine par les chroniqueurs de l'époque.
Oui, chronologiquement, c'est le contraire qui s'est passé. J'ai fait le livre et on a fait la lecture à l'occasion de la sortie du livre. J'avais été frappé de ce que le journalisme de cette époque-là était incroyablement riche en écrivains de toute première grandeur et que Verlaine, qui est mort dans un état de misère absolument noir, était parvenu en même temps à une très très grande célébrité. Et donc en tirant les fils comme ça petit à petit du tissu, de l'écheveau, je me suis rendu compte que tout le monde, enfin, tout le monde lettreux parisien avait écrit à ce moment-là, soit dans les journaux, soit dans les revues, soit dans les journaux intimes, les correspondances, les souvenirs. En allant farfouiller un petit peu partout, on retrouvait quelque chose sur Verlaine. Soit sur l'homme, soit sur son agonie, soit sur son enterrement, soit même sur le cortège simplement, ou même au moment de la mise en terre. Enfin, il y a eu un certain nombre de discours qui ont été prononcés, dont le discours de Mallarmé est resté le plus célèbre sans doute. Et qu'en lisant tout ça, petit à petit, je me suis rendu compte donc que c'était d'une d'un extrême intérêt, enfin, intérêt très divers, soit intérêt purement littéraire, comme c'est le cas par exemple pour le texte des carnets de Barrès, soit intérêt historique, pour tous les articles du Figaro, pour la polémique avec Zola, soit très émouvant, comme les choses de ses confrères poètes, si l'on peut dire, enfin, de gens comme Schwab, ou Francis Jamm, ou ces gens-là qui ont véritablement pleuré le poète qui était mort, soit extraordinairement méchant et amusant, comme ce qu'a écrit Jules Renard, ou il y a des polémiques qui sont nées. Enfin, je veux dire, ça, il y avait une espèce de, à ce moment-là, une espèce d'effervescence dans la presse, constante d'ailleurs, et cette effervescence peut se noter à cette occasion-là. Mmh. C'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est une sorte de biographie qui est faite là, par entrecroisement, simplement que ce soit chronologique, ça mélange tous les fils, ça fait une sorte de tissu, comme ça, un petit peu mêlé. Et on a une assez bonne idée, à la lecture de ces textes, une assez bonne idée de ce que ça pouvait être, à la fois Verlaine et sa poésie, et puis tout le milieu littéraire qui gravite autour.
Donc une couverture de presse tout à fait exceptionnelle qui ferait pâlir d'envie les poètes d'aujourd'hui.
Oui, ça je crois que vous pouvez le dire. Oui, c'est comme ça que je termine ce petit texte d'introduction que j'ai écrit. Je me demande, quand lorsque les grands poètes d'aujourd'hui mourront, s'ils auront droit au centième, quoi. Le Figaro, par exemple, a fait une demi-douzaine d'articles successifs. Et grands, importants,
des pages entières. La mort de Verlaine était à la une.
Oui. Et on y revenait, et on se répondait, les lecteurs écrivaient, etc. Il y a eu des nécros partout, dans les journaux de province, enfin. Est-ce qu'on imagine... Les gens sont tout le temps persuadés que... Enfin, c'est une preuve que la poésie est morte, et moi j'ai l'impression que c'est... D'abord, la poésie n'est évidemment pas morte, elle ne s'est jamais aussi bien portée. Mais c'est plutôt la mort de la presse, enfin, ou plutôt d'une partie de la presse, parce que cette presse était très très nulle à côté. Je veux dire, par là, qu'il faisait une colonne entière sur le Temps qu'il avait fait la veille, où il publiait des petites histoires drôles, comme ça, en première page du Temps, enfin, des journaux très très importants.
Oui, mais il n'y avait pas la télévision à l'époque.
Non, d'accord, mais enfin, c'est pas une raison pour publier des histoires stupides. Non plus.
Le Temps a toujours intéressé tout le monde.
Le Temps qu'il va faire demain, peut-être, mais le Temps qu'il a fait la veille... C'est quand même assez...
Comme ça, on ne se trompe pas.
Alors, on publiait, tous les grands auteurs se faisaient publier, on publiait leurs romans en feuilleton, il y avait des polémiques, etc. Et puis, comme ces gens-là étaient quand même d'une extrême violence, les uns avec les autres, ça donnait lieu à des échanges vraiment épiques, je trouve, et qu'on a perdu. Le fait de ne plus vouloir attaquer les personnes aujourd'hui, qui est une chose très estimable en soi, surtout quand on s'appuie, comme on le faisait à cette époque-là, sur le physique, le nom, éventuellement la religion, la race, etc., ce qui était tout à fait détestable, mais le fait de ne plus faire ça du tout, nous fait perdre... Enfin, je veux dire, les hommes existent aussi. Si on s'intéressait, par exemple, à l'intelligence d'un homme politique et non pas seulement à sa carrière, par exemple, on dit une carrière sans faute à propos d'un homme politique, on dit jamais c'est un imbécile, il est incapable de faire trois phrases l'une à la suite de l'autre, enfin, ces choses-là, on ne les dit plus. Et à cette époque-là, ça se disait. Et ça se disait avec un ton inouï. Jamais plus un critique, même les plus méchants d'aujourd'hui, qui sont d'ailleurs dûment répertoriés par les attachés de presse, des éditeurs, aucun critique n'oserait écrire le dixième de ce qu'écrivait Léon Blois ou Laurent Taillade.
Oui, notre époque est à l'allusion, écrivez-vous, au silence diplomatique, un univers de tisane, pour citer Aragon.
Exactement, oui. Par exemple... Si on prend un texte de Léon Blois, la réponse que Léon Blois a faite à Zola, Zola a écrit un article assez maladroit sur Verlaine, où il disait en gros que Verlaine aurait bien voulu être un bourgeois, un académicien, et qu'il était comme tout le monde, il aurait voulu gagner de l'argent, etc. Enfin bref, c'était un article assez déplaisant. Léon Blois a écrit un texte qui commence ainsi, donc ça ne concerne pas Verlaine, mais Zola. Si M. Zola était écrivain, ce que Dieu, j'en conviens, aurait pu permettre. Une ou deux pages lui eussent amplement suffi depuis longtemps pour empiler toute sa sécrétion intellectuelle. La petite couillonnade positiviste dont il s'est fait le gaudissard n'est vraiment pas une somme philosophique très encombrante et peut aisément s'ombrager sous trois poils du cul.
Vous pensez, Jacques Drillon, qu'il faudrait aujourd'hui cultiver l'art de se faire des ennemis comme si on n'en avait pas assez sans rien faire?
Mais justement, tant qu'en avoir, autant les mériter. Non, je veux dire, ça serait quand même un petit peu plus drôle. Moi, d'ailleurs, je travaille dans un journal, dans un hebdomadaire, où c'est un serpent de mer, c'est une réflexion récurrente qu'on nous fait, on manque de polémique. Allez-y, allez-y, tout le temps. Puis personne n'y va. Personne n'y vient à ce truc, comme disait Céline.
Kick that habit, man. That habit kick, man. Habit, man, kick that. Man, kick that habit. Kick that man habit. That man habit kick. Habit kick that man. Man habit that kick. Kick habit that man. That man kick habit. Habit that man kick. Man kick habit that. Kick habit man man. Habit man that kick. That kick habit man. Man that kick habit. Kick man habit that. Habit that kick man. That kick man habit. Man habit that kick. Kick man that habit. That habit kick man. Habit kick that man. Man that habit kick.
Comment avez-vous taillé Jacques Drillon dans ces dizaines de textes publiés dans les journaux de l'époque à l'occasion de la mort de Verlaine et qu'on retrouve dans Tombeau de Verlaine, le livre qui paraît aux éditions Le Promeneur?
Comment j'ai taillé? Écoutez, je les ai lus, j'ai gardé ce que j'ai trouvé de plus intéressant. J'avais un quota de pages à ne pas dépasser et j'ai réduit. Je me suis... Les choses qui étaient facilement accessibles, comme par exemple tout ce que Mallarmé avait écrit, je ne l'ai pas republié. Je me suis astreint à ne conserver que les choses un petit peu rares, pour ne pas faire double emploi. L'intérêt de la chose était d'aller retrouver, enfin, pour ce cas-là, d'aller retrouver des choses qu'on avait oubliées, et des auteurs oubliés aussi. Des gens comme Camille Mauclair ou comme Taillade sont des gens qu'on ne lit plus et c'est bien triste. Je veux dire, la langue de ces gens est parfois d'une beauté, d'une invention, d'une générosité. Enfin, ce sont des gens oubliés, hein, justement, mais on y reviendra, on les relira, je pense. Enfin, j'avais une sorte de chronologie à respecter. Je partais, ça n'était pas sur très très longtemps, mais c'était quand même une chronologie. Je partais de l'agonie et j'arrivais à la mise en terre. Donc, voilà, j'ai pris les tout premiers articles écrits et puis je les ai classés.
Avec pour commencer une sorte de portrait de Verlaine par Laurent Taillade, justement, qui revient sur la boiterie de Verlaine et sur sa laideur de son visage à la Socrate.
Oui, ça c'est un petit peu un poncif. On retrouve ça un petit peu partout, donc il fallait en choisir un ou deux. Il y en a deux. Il y a un autre portrait à la fin qui est de Schwab, où il parle aussi de sa boiterie, et de sa laideur à la Socrate, et de sa figure de Silène, et de Faune, etc. Je crois que Verlaine avait une tronche, véritablement une tronche d'SDF, on dirait, enfin, quelqu'un qui passe ses nuits dans les rues et qui boit du vin rouge toute la journée. Lui, il n'était pas exactement dans la rue, c'était pas du vin rouge, enfin, c'était aussi du vin rouge, mais il avait véritablement, je crois, une trogne terrible. Et il faisait peur, il impressionnait les gens, il faisait peur aux petites filles dans la rue, ça c'est sûr. Et donc la première chose à faire pour quelqu'un qui écrivait dans les journaux à cette époque-là, c'était quand on faisait un portrait, c'était de dire à quoi il ressemblait. Il avait les yeux bridés, il avait un front très extraordinaire, un nez extraordinaire aussi, ses cheveux emmêlés, la barbe, enfin la patte folle. C'était, je crois, véritablement une figure du quartier quand il passait.
Vous avez repris aussi des extraits du livre de ses deux amis intimes, Casals et Le Rouge, Les derniers jours de Paul Verlaine, en choisissant un extrait qui décrit son logement au 39 de la rue Descartes, un logement qui n'était pas vraiment 4 étoiles.
Non, malgré tous ses efforts, puisqu'il raconte, et ils ont été nombreux à le noter, Schwab en a parlé aussi, et Montesquieu, et on raconte que dans les derniers jours de sa vie, Verlaine peignait tout en doré. Il avait acheté de la, ce qu'on appelle aujourd'hui, je crois, de la peinture de radiateur, ou quelque chose comme ça. Enfin, de la peinture dorée, quoi. Et il peignait tous les objets, sa tabatière, sa pipe, son cendrier, ses assiettes. Et ça lui faisait comme ça une espèce de palais soupente, je dirais. Il vivait dans une soupente de la rue Descartes, derrière le Panthéon.
Deux pièces cuisine.
Oui, c'était à peu près ça, je crois. Avec une femme, qui s'appelait Eugénie Krantz. cette femme aussi, elle toute seule, avec sa figure de grenouille, comme dit je ne sais plus lequel d'entre eux, était un personnage incroyable d'ancienne prostituée, cousette pour le bon marché, et qui adorait Verlaine et qui le volait, qui le caressait, le battait. Enfin, il y a, dans ce ménage entre Verlaine et Eugénie Krantz, on trouve tout ce qu'il y a dans Verlaine. C'est-à-dire que c'est véritablement une contradiction vivante tout le temps. Comment cet homme qui a écrit les vers les plus délicats, les plus raffinés de toute l'histoire de la poésie française, a pu être cet homme de fange et de pourriture, de ruisseau, d'ivrognerie qu'il a été, comment a-t-il concilié son amour des hommes et son amour des femmes, son respect pour les grands et son amour des petits, tout ça se retrouve dans son ménage avec Eugénie Krantz. Quand il partait sur la fin, quand il a commencé à être un petit peu célèbre, il partait en Hollande ou en Angleterre pour faire des conférences, il y gagnait un petit peu d'argent. Et quand il revenait, il se faisait voler par Eugénie Krantz. Et quand il repartait, bien l'argent qu'il gagnait, il le lui donnait. Donc c'était ça, une sorte de... Et puis, tout est irréconciliable chez lui, entre Dieu et Diable, entre cette espèce de vénération qu'il avait pour ses aînés, les poètes aînés, Hugo et Copé, Banville et Baudelaire, etc. Et puis ce qu'il a fait, lui, avec la poésie, et puis son amour de Rimbaud. Et comment peut-on écrire les poèmes saturniens et penser que Rimbaud est un... Enfin, penser et tenir Rimbaud pour le plus grand poète, ce sont des choses qui sont quand même assez... On peut dire qu'on peut avoir des goûts contradictoires comme ça, mais quand tout est systématiquement contradictoire, c'est très très étonnant.
À quoi ressemblait sa table de travail ?
À quoi ressemblait sa table de travail ? Je crois que ça ressemblait à une table de bistrot, avec un verre d'absinthe dessus. Je n'en sais pas plus. Je sais qu'il écrivait beaucoup comme ça, un peu partout.
Il y a un texte qui parle de la petite lampe à pétrole qui était sur la table, dont le réservoir figurait un hibou.
Oui, oui. Non mais oui, il s'éclairait incontestablement. Non mais je veux dire par là que le mystère véritablement, qui est un mystère qui est aussi épais que celui qui concerne Mozart par exemple, le mystère de Verlaine, c'est que cet homme est contrairement aux autres n'a pas été le jouet d'influence quand il était petit, enfin quand il était jeune, mais qu'il était véritablement complètement poreux, dit Jacques Borel. Ça veut dire que ce ne sont pas des influences, ça veut dire que ses premiers poèmes, par exemple, ne sont pas des poèmes de jeunesse, véritablement. Ce sont tout de suite des poèmes de maturité, parce que non seulement il était poreux, mais je pense qu'il aspirait le liquide poétique dans lequel il était plongé. Et toutes ces influences diverses, très contradictoires, dont il a profité, il en a fait quelque chose qui n'avait absolument rien à voir. Comme vraiment, la somme des parties n'a plus rien à voir avec le tout. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité véritablement à réconcilier les contraires. Les deux recueils de poèmes pornographiques ou érotiques, enfin je ne sais pas d'ailleurs, faire de l'érotisme ou de la pornographie en vers, enfin ça c'est complètement, c'est un projet absurde. Il y a une partie du recueil qui s'appelle Femme et l'autre Ombre, Ombre, l'homme. Et donc où il dit constamment dans les poèmes pour les femmes, il dit Vous m'avez convaincu. Oui, c'est ça exactement. D'ailleurs, je crois que je vais chercher dans mon volume puisque je l'ai. Je trouverai évidemment pas. Mais enfin bref, il ne cesse pas de dire voilà, je suis foutu, tu m'as vaincu. Je n'aime plus que ça. C'est dans Femme. Je suis foutu, tu m'as vaincu. Je n'aime plus que ton gros cul, tant baisé, les chairs niflées, etc. Et que ton cher content branlé. Bon. Et dans le deuxième pendant de ça, il dit exactement le contraire. Il dit comment peut-on voir une femme, comment peut-on désirer une femme alors que tes chères couilles, etc., etc. C'est constamment comme ça. Il passe d'un extrême à l'autre constamment. Et finalement, cet homme, les seuls moments où il a été heureux, c'était quand il était à l'hôpital et où il a passé de très très nombreuses semaines, de très nombreux mois. Alors que c'est l'endroit où n'importe quel homme normalement constitué se trouve juste précisément le plus malheureux. Alors qu'il était, quand il était hors de l'hôpital, c'était l'enfer. Voilà quelqu'un qui n'aime que les, enfin on dirait aujourd'hui les pissotières, quoi. Parce que c'était vraiment ça, c'était pas du tout un homosexuel raffiné à la Visconti, hein. C'était vraiment un PD, quoi.
Il y a plus beaucoup de pissotières aujourd'hui.
Oui. Non.
Sauf devant la prison de la santé.
Enfin, je veux dire, c'était quelque chose de très, très, c'était très, très pasolinien, son affaire. Comment cet homme a pu épouser cette mademoiselle Motet de Fleurville qui porte le même nom que je ne sais plus quelle héroïne de la comtesse de Ségur? Enfin, c'est inouï, quoi.
Alors, vous rappelez, Jacques Drillon, que le tout premier poème de Verlaine s'intitule « La mort ». Et on sait que le dernier, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il l'ait vu paraître, mais il en a corrigé les épreuves, a le même titre.
Ça s'appelle « Mort, point d'exclamation », oui. « La mort » avait été un poème qu'il avait envoyé à Hugo, en gage de respect, j'imagine. Oui, c'est un... Oui, c'est une boucle, il n'a jamais... Je crois que c'est quelqu'un qui a appelé la mort beaucoup et qui a vécu en très très grande intimité avec elle. Il y a un mot de Blondin qui parle du coup de revolver que Verlaine a tiré sur Rimbaud et qui dit le coup claqua comme un baiser. Voilà, ces deux choses qui ont... C'est une chose un petit peu rebattue, quoi, l'amour, la mort. Mais ces deux choses-là ont véritablement coexisté chez lui, je crois. Il a essayé de tuer tout ce qu'il aimait, enfin, ça... Sa mère, son amant, tout ce qu'il avait de plus cher au monde, il l'a poignardé ou il a tiré dessus à un moment ou à un autre, même de manière répétée avec sa mère. Il a essayé au moins 5 ou 6 fois de la tuer, de l'étrangler. Sa femme, c'est pareil, il n'a pas cessé de la battre. Alors que c'était vraiment... C'était une perle, enfin, cette femme. Elle a tout subi, tout supporté. Et sans doute pour cette raison. Alors voilà, on trouve cette chose-là. De même... On trouve dans les choses les plus ambitieuse de lui, c'est ce qu'il y a de plus mauvais dans sa poésie, et puis dans les choses les plus, normalement les plus nulles, par exemple les poèmes érotiques, il y a des vers admirables, même dans les poèmes religieux, il y a des choses admirables. Alors s'il y a des choses admirables dans les poèmes religieux, où va-t-on ?
C'est ta bête, et c'est l'éternel clitandre, et c'est Damis qui fourmette cruelle, fit ma mère tendre. Leur quatre veste de soie, leur longue robe à queue, leur élégance, leur joie. D'une lune rose et grise, et la mandoline jase parmi les frissons de brise. Les donneurs de sérénades, les belles écouteuses, échangent des propos fades sous les ramures.
On écrit des poèmes sur la mort, Jacques Drillon, puis un beau jour, on meurt. C'est ce qui est arrivé à Verlaine. Généralement, les gens vous oublient, surtout quand vous êtes poète. Mais lui n'a pas été oublié, puisque, vous le disiez au début de cette émission, les articles ont plu, littéralement. Alors, une masse d'articles considérables que vous avez lus, dépouillés, et vous avez noté, alors ça c'est peut-être inquiétant pour notre profession de journaliste, que d'un article à l'autre, tout variait. C'est-à-dire que le nom des personnes présentes, venues rendre visite après la mort de Verlaine, changeait. L'âge du poète, la présence d'un prêtre, même la nature de la maladie. Cancer, tuberculose, pneumonie, syphilis, enfin bon, toutes les maladies d'époque étaient envisagées.
Et il faut dire qu'il les a toutes eues, alors il les avait toutes en même temps, comme dans 3 hommes dans un bateau. Alors, les journalistes en citaient quelques-unes, mais c'est vrai que cette qualité de plume, qui était celle des gens de presse de cette époque-là, mon Dieu, avait un revers qui était une assez grande négligence en matière d'exactitude d'information. Aujourd'hui, on vérifie tout, on a des secrétaires de rédaction qui sont là pour ça, ils vérifient les orthographes, les noms étrangers, toutes ces choses-là.
Donc tout est vrai quand c'est écrit dans le journal aujourd'hui.
Oui, enfin un petit peu plus, je veux dire. En tout cas, on ne dirait pas que que François Mitterrand est mort le 10 janvier, s'il est mort le 8, comme on l'a dit, de Verlaine.
Alors pourtant, la presse entre vraiment dans les détails de la cérémonie, du cortège, l'itinéraire suivi,
oui, mais
tout
se
passe.
C'est très intéressant tout ça, c'est très très amusant aussi. Qui va porter les cordons, tenir les cordons du poêle, cette espèce de drap qu'on mettait sur le catafalque. Alors, parce que tout le monde prétend être le plus grand Verlainien et celui qui a fait sa fortune et sa réputation, etc. Et alors donc, il n'y a que quatre coins, ce fichu poêle. Et donc, on est obligé de se le passer. Et puis, on voit entre-temps qu'il y a François Copé qui tenait un des cordons du poêle et qui s'absente parce qu'il a un texte à remettre à un journal ou son discours à faire sur la tombe, je ne sais plus. Bref, il prend un fiacre pour pouvoir réécrire son texte tranquillement. Et puis, il y a quand même 10 000 personnes qui sont là. 10 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Mmh. Il fait un froid de gueux.
Aujourd'hui, un livre de poésie n'est pas tiré à 10 000 exemplaires.
Non, mais les siens non plus. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a attendu vraiment qu'il soit complètement décati, fichu, pourri et finalement mort pour sortir, quoi. Et le ministre, l'envoyé du ministre de l'Instruction publique est là. Et, qui n'était d'ailleurs pas une mauvaise personne. Il lui a souvent donné de l'argent. Il lui a donné des petites aides, comme ça. Il y avait des femmes du monde qui lui envoyaient une pension. Enfin, qui étaient censées le faire, en tout cas, parce que la pension arrivait très irrégulièrement. Des comtesses, des duchesses, des princesses, enfin, tout ça. C'était très, 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 très bizarre comme mélange. Comment Madame Greffuhl, la comtesse Greffuhl, qui était le modèle de la duchesse de Guermantes, enfin, un des modèles de la duchesse de Guermantes, donc, qui est une femme qui avait des quartiers de noblesse par brouettes entières, hein. Comment a-t-elle pu s'intéresser à ce poète maudit-là, enfin. Il n'y a plus grand monde maintenant qui fait ça. Maintenant, la disjonction est entre l'aristocratie intellectuelle et puis la fortune financière, je veux dire, totalement consommée. C'est une véritable fracture sociale, pour le coup.
Il n'y a pas eu moins de 6 discours prononcés, dont ceux que vous retenez dans votre livre, ceux de Barrès, Mallarmé et Maurias. Mallarmé et son célèbre « La tombe » aime tout de suite le silence. Mais la fin de cette émission approche, donc le silence nous menace, Jacques Drillon. Et je voudrais quand même vous demander où lire Verlaine aujourd'hui, dans quelle édition. Il y a l'édition de la Pléiade que vous avez devant vous, mais il y a aussi une édition poétique complète en collection bouquins et quelques autres.
Oui, je n'ai pas de préférence particulière. J'aime beaucoup la Pléiade parce que je trouve que tous les textes de Jacques Borel qui a préféré introduire chaque recueil plutôt que d'écrire une sorte d'immense dissertation au début comme ça est extrêmement éclairante. C'est de très très beaux textes, extrêmement intelligents et pénétrants, allant tout de suite à l'essentiel, irréprochables du point de vue du factuel, enfin, de l'érudition, des dates de publication, les reprises, toutes ces choses-là, parce que c'était assez compliqué quand il y avait plusieurs versions, enfin, c'était l'édition, tout ça. Il y a toutes les œuvres libres, donc les choses un petit peu salées qui se trouvent dans ce volume, qui n'ont donc pas été, qui n'avaient pas été reprises avant, et c'est très bien. Enfin, personnellement, je recommanderais ça. Ce qui est pas très bien, c'est l'édition Garnier, qui est très incomplète. Enfin, elle ne présente pas non plus être complète, mais. Enfin, voilà.
Est-ce qu'il est utile de lire les livres sur Verlaine ?
Alors, il y en a un qui vient de paraître, qui est d'un poète qui s'appelle Guy Goffet, qui est un livre que j'aime beaucoup, parce que c'est encore une biographie qui n'en a pas le nom ni la forme, et qui dit tout de même. Enfin, je veux dire... Il y a une phrase de Godard qui est, je trouve, extrêmement importante. Il dit « Si les gens veulent comprendre comment le cancer se développe dans un organisme, ils n'ont qu'à regarder le monde du cinéma. » Ça veut dire que pour comprendre certaines choses, il faut aller voir des gens qu'on ne va jamais voir. Et je pense que pour une biographie, il ne faut pas aller chercher les anglo-saxons, ceux qui vous... Enfin, c'est utile aussi pour travailler, c'est très bien, il faut qu'il y en ait aussi. Mais je veux dire, Goffet, par sa manière de tourner autour par sa manière de tourner autour, entre dedans plus profondément que n'importe quel biographe. je trouve qu'on a une idée absolument complète de ce que peut être le personnage de Verlaine, même si on ne sait pas ce qu'il a fait en 1877. C'est-à-dire que tout le travail culturel est fait, quoi. Tout le travail de compréhension est fait. Vous avez véritablement un homme qui vous parle, un homme doué de pensée qui vous parle et de sensibilité, qui s'est en plus complètement identifié à Verlaine. Et donc, c'est un livre qui s'appelle Verlaine d'ardoise et de pluie, je crois.
Oui, et c'est chez Gallimard. Tombeau de Verlaine, texte réuni par Jacques Drillon aux éditions Le Promeneur. I'm a hell of a hullabaloo baboon, and I love a baboon. Du jour au lendemain, Édouard Campras, Bruno Sourcy, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.
Cette émission a été diffusée le 17 février 1996 sur France Culture.